la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Merci à Maryse Rabel pour son accueil. C'est un reportage de Margot Doucet pour L'Autre Radio.
Savourez nos différences sur Radio G 101.5 FM. Shock Radio FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture, un mercredi sur deux sur Radio G. Salut Seb.
Oui, salut Seb.
Comment ça va?
Ben écoute, ça va.
On attend Romain.
On fait un petit coucou à Pablo.
Oui, il ne peut pas nous rejoindre ce soir.
Et un petit coucou aussi à...
À qui?
À Anaïs.
Ah oui.
Anaïs, qui va pas tarder non plus apparemment d'animer quelque chose, un petit pavillon sur le marché de Noël, j'ai vu ça là. Sur
les... Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a le lycée professionnel Paul-Émile Victor qui a une classe, qui a une entreprise pédagogique.
Ouais.
Et ils ont cette année un stand sur le marché de Noël à Angers, place du Ralliement, c'est super.
C'est super, donc voilà.
Bon, on les salue.
Mais on les salue, on salue
alors,
tout le monde.
Alors ce soir, Seb, on parle comme d'habitude de cinéma, de séries télé, de bandes dessinées, tout ce qu'on aime.
Tout à fait, hein, l'éclectisme, hein, 110 mètres haies, comme à chaque fois. Bon, celle-là, je vais commencer à l'écluser un petit peu.
Mais
hein,
c'est
quand
vrai
même.
Que t'aimes le sport.
Oui. Hein. Alors, tu vas nous proposer quoi comme petit morceau de musique pour commencer?
Alors moi, je voudrais qu'on réécoute Sang Froid, c'est un groupe nantais qui fait, on va dire, de la cold wave, de la dark wave. Mm-hmm. Ça avait beaucoup troublé Pablo, mais on démarre l'émission avec Sang Froid sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point. We'll be right back.
c'était Sans Froid.
Ouais.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G. Tout à fait. 101.5. La radio qui fait le point.
Et c'est pas mal comme petit générique.
Ah, c'est aussi. Pas mal, hein, moi j'adore. Un groupe nantais, donc Sans Froid, qui vient de sortir son premier album. Si vous aimez la Dark Wave, la Cold Wave, les années 80 avec un son un petit peu plus moderne, un peu plus métallique, ben c'est fait pour vous.
C'est sympa.
C'est sympa. Et puis finalement, moi je trouve qu'il y a une grande phrase qui va s'impliquer aussi en même temps.
Ah, vas-y. Faut que tu montes le bouton.
La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
C'est clair.
On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Ouais, c'est la vie.
Donc voilà, c'est juste pour faire la transition.
Alors, on parle de cinéma ?
Ouais, on va parler de cinéma.
Ok.
Ok, ok. Alors qu'as-tu vu ?
Qu'as-tu vu ? Alors, avec Florence, on est allé au 400 coups voir The Old Oak.
Ah oui.
C'est le dernier film de Ken Loach. Alors, on aime bien Ken Loach. Ken Loach, rapidement, c'est un réalisateur anglais très célèbre. Il a plus de 80 ans maintenant. Il a fait beaucoup de films. Alors, à la fois des films sociaux et puis des comédies. Donc, les films sociaux sont souvent très durs hein, sur vraiment l'Angleterre pauvre, l'Angleterre qui galère, l'Angleterre des travailleurs. Hein, parce que, bon, clairement, Ken Loach est un marxiste. Il est de gauche. Et, mais il fait de très, très bons films. Et il fait aussi des comédies. Alors là, c'est un film social, mais beaucoup moins, on va dire, triste ou dur ou sombre. C'est plutôt un film plein de fraternité. Voilà, et ça fait du bien.
En ces temps difficiles.
Ouais, exactement. Alors, c'est l'histoire de TJ Ballantyne, qui a un super nom de whisky. Il est le propriétaire du Old Oak, donc du vieux chêne en fait en français, qui est un pub situé dans une petite bourgade au nord de l'Angleterre. On est dans la région de Durham. Je ne sais pas si vous voyez Newcastle, Durham, le nord de l'Angleterre.
Durham.
Durham.
Durham. Durham.
Avec l'accent. Alors TJ, il sert quotidiennement les mêmes habitués, alors qu'ils sont désœuvrés, hein, parce que l'endroit s'est devenu, au fil du temps, le dernier lieu où on se retrouve. Hein, dans la petite ville, il n'y a quasiment plus de lieu de sociabilité, comme on dit, à part le pub. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une arrivée de réfugiés syriens, puisque ça se passe en 95-96, c'est l'époque hein, de l'arrivée des réfugiés. Et cette arrivée de réfugiés va créer des tensions dans le village, évidemment. Et TJ, lui, il va se lier d'amitié avec Yara, qui est une jeune migrante qui est passionnée de photographie. En fait, ce qui va les relier, c'est ça. D'abord, c'est la photographie. Et ensemble, ils vont tenter quelque chose. Ils vont tenter de redonner vie à la communauté locale en développant une cantine pour les plus démunis, quelles que soient leurs origines, hein, bien sûr. Parce que ce qu'on découvre petit à petit, c'est que les réfugiés, forcément, ils n'ont plus rien, ils sont partis avec leurs vêtements, leurs valises, enfin, ils ont, voilà. Et ils ont faim, bien sûr. Ils ont très peu de soutien. Il y a quelques associations qui aident, comme ça, qui apportent des vêtements, par exemple. Et puis, on se rend compte que les Anglais qui vivent là depuis longtemps, ils sont complètement abandonnés par les institutions. Et eux aussi, ils ont faim, en fait.
Oui.
C'est assez troublant. Et qu'on soit réfugié syrien finalement ou pauvre en Angleterre, eh bien, on est dans la même galère. Voilà. Donc ce film, c'est un immense film. Moi, je trouve que c'est un hymne à la solidarité. Voilà. Vivre ensemble, film bouleversant et plein d'espoir, en fait. Plein d'espoir. Et c'est pas plein de bons sentiments. Il y a vraiment des passages très difficiles parce qu'il y a des gens qui refusent l'arrivée de ces migrants, évidemment.
Ou qui les accuse de tous les maux.
Voilà, exactement. Parce que c'était une région qui était riche. Hein. Il y avait des mines de charbon. Pendant longtemps, il y avait beaucoup d'habitants. Et là, tout ça a disparu, en fait. Alors, il y a le souvenir des grèves aussi, des années 80, hein, contre la fermeture des usines. Et donc, il y a aussi cette nostalgie de la lutte, hein, du combat. Mais c'est pas larmoyant. Voilà, c'est plein d'humour, d'humanité. Ça fait du bien en ce moment.
Voilà, ah oui, ça donne envie, en tout cas.
Ouais, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment très bien. En plus, l'acteur principal, c'est pas un acteur professionnel. Alors, on l'a déjà vu dans des films de Ken Loach dans des rôles secondaires. Là, Ken Loach lui a dit, c'est toi qui vas jouer le rôle principal. Donc, beaucoup de stress pour lui. Et en fait, il est excellent. Voilà, c'est un film qui fait écho à plein de sujets d'actualité. Et ça fait du bien. Voilà. Je voulais vous en parler. Vous voulez partager bien, ça avec
vous. Ça nous a donné envie. Moi, j'irai le voir.
Et puis, bien sûr, il faudra qu'on aille voir Napoléon.
Napoléon, bien sûr.
Qui n'est pas un film historique, hein, mais qui est une fiction. Et pourquoi pas, après tout
Moi, ce que je trouve intéressant, alors on va carrément oublier le côté historique, hein, parce qu'à mon avis, le côté historique, historique et américain, ça rime pas
alors,
vraiment.
Alors, si, je crois que au niveau des costumes, c'est plutôt réussi.
C'est plutôt réussi.
Après, c'est un film d'action.
C'est un film d'action.
Et puis, je rappelle que Ridley Scott est anglais.
Oui,
donc
anglais.
Forcément, il n'aime pas Napoléon.
Forcément, donc ça laisse. Mais à mon avis, les scènes de bataille doivent être quand même grandioses.
Bah, Ridley Scott, c'est Gladiator.
Oui, c'est ça. Rien que pour ça, je pense qu'il faut aller.
Ouais. Donc, The All Hawk, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est le dernier film de Ken Loach et qui est encore très vert pour son âge.
Oui, tout à fait. Et puis surtout, il donne, à l'âge qu'il a, il a encore beaucoup d'espoir de ce que tu développes.
J'aime bien les titres, moi, dans Télérama, donc Ken Loach est encore vert de rage. Il y a dans Le Monde une pinte d'humanisme.
Ah, pas mal.
C'était pas mal. Donc c'est un bon film.
Un petit morceau de musique.
Ah oui.
Alors, je vais prendre
un petit plaisir
personnel.
Est-ce que c'est un plaisir coupable?
Je sais pas. Ça va être un petit Maneskin quand même.
Ah, il aime bien.
Ah, j'aime bien.
Italiens.
Les Italiens, ouais, c'est pas mal. Et puis, du coup, je vais prendre le morceau The Lone List.
Dans Bande Geek Mafia.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le point. Et c'est parti maintenant. You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. Tonight is gonna be the loneliest. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know. I love you so. 'Cause I don't even care about the time I've got left. And the only thing I know now is that I want. Nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. Sorry, but I gotta go. If you love me, let me give this song another go. And I just keep on thinking how you made me feel better, and all the crazy little things that we did together. In the end, it doesn't matter if tonight is gonna be the loneliest. Saddest part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. Voilà, c'était Maneskin sur justement Radio G dans votre émission Bang Geek Mafia.
Ouais, c'est jazz.
Jazzy.
C'est ça.
On aime ça.
On aime ça, on aime ça, on aime ça.
On aime l'éclectisme.
Eh, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Et il a pas dit le 110 mètres ?
Non, j'ai pas dit.
Ouais. Ah, c'est jazz, justement.
Exact.
Ah, je vois, tu sais, l'extraterrestre qui joue de la flûte.
Dans cette... C'est
un instrument de musique qui joue avec sa trompe, je sais plus.
Oui, enfin bref, on sait pas trop et on veut pas trop savoir.
Oh, on regardera Star Wars à nouveau pour la millième fois.
Pour la millième fois, pour la 356 millième fois. Bah tiens, ça tombe bien justement, ça va nous faire une transition.
Ah, on est trop fort, on a bien préparé.
Bien préparé. Une petite transition parce que je vais vous parler bande dessinée.
Oui, et tu sais quoi, je vois ces 3 PO.
Tu vois ces 3 PO, bien sûr, parce que là j'ai trouvé une petite bande dessinée. Alors là, génial, de Renaud Roche et Laurent Hopman, La guerre de Lucas. Lucas, même précisément. Donc aux éditions Demand Édition. Et donc voilà. Alors qu'est-ce que nous dit la quatrième de couverture ? Scrupuleusement fidèle à la réalité historique, méticuleusement documentée, les guerres de Lucas mettent en scène l'épopée de George Lucas, enfant rebelle passé à côté de la mort, prodige du nouvel Hollywood et visionnaire indomptable. Une exploration inédite dans des coulisses de Star Wars, de l'enfer du casting au tournage cauchemardesque, ou querelle entre acteurs. Histoire d'amour secrète et désastre en pagaille jalonnent le quotidien. Un bourbier gigantesque dont sortira pourtant une œuvre majeure qui changera à jamais le 7e art. Les guerres de Lucas est une plongée en apnée dans les affres de la création, intense et poignante, mais drôle malgré tout, mais qui n'offre ultime, success story, jouissif et leçon de cinéma, une ode à la magie de l'enfance et à la persévérance.
Excellent. Et tu sais que je viens de faire un rapprochement que j'avais jamais fait entre George Lucas et Luke Skywalker.
Et
peut-être que le prénom Luke du personnage, ça vient de Lucas.
Eh ben oui, parce que c'est son père.
Pas mal.
Il y a beaucoup de frères.
Vous êtes en forme.
Ouais, on est en forme. Alors là, franchement, bon, graphiquement, on va pas dire non plus que c'est voilà. Bon.
Tu veux dire que c'est pas très original, c'est pas extraordinaire,
c'est simple. C'est simple. Ouais, voilà, c'est simple, mais c'est bien fait quand même parce que les personnages, on les reconnaît. Il y a vraiment.
Heureusement.
Non, mais on les reconnaît. C'est-à-dire que c'est pas qu'une simple caricature comme on aurait pu avoir. Il y a quand même une recherche graphique aussi en même temps pour alléger le trait aussi. On reconnaît vraiment tous les acteurs et sincèrement on apprend plein de choses quand même sur la création justement de cette œuvre au départ qui a failli ne pas voir le jour quoi finalement.
Donc on n'est pas sur un comics américain parce que c'est il y a les Star Wars
ouais.
En comics.
Hein. Non, là c'est vraiment l'histoire de la création et de la prise de tête aussi en même temps de la part de Lucas face à la production qui dans certains côtés lui dit oui, on vous fait confiance mais de l'autre côté on vous fait pas confiance quoi mais absolument pas quoi.
D'accord.
Donc on a toute cette lutte qui transparaît puis on voit aussi donc l'élaboration de ce projet qui a maturé, on voit les premiers finalement les premières idées sur les Star Wars où tout le monde dit à Lucas bon écoute t'es bien gentil effectivement c'est intéressant mais voilà quoi c'est prise de tête ton truc faudrait peut-être revoir 2-3 trucs et puis on voit aussi le rôle que sa femme a joué dans le soutien dans la réalisation dans le montage quoi enfin bref on voit voilà que c'est vraiment une œuvre on comprend pourquoi ça a aussi bien fonctionné c'est quelque chose qui le tenait vraiment à cœur
ouais, c'est très riche au niveau des références mythologiques légendaires enfin
c'est... oui alors ça c'est sur à peu près la quatrième ou cinquième version parce que sur les premières versions on était très 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 loin quand même
c'est vrai
et là franchement c'est vraiment important quoi c'est vraiment bien décrit et puis c'est vrai que le personnage maintenant George Lucas quand on le voit bon on est tous plus ou moins attachés à lui quand même parce qu'il a quand même bercé notre enfance là avec son histoire de guerre des étoiles sauf que sur les premières planches et les premières pages c'était pas un gars si sympathique que ça quoi quand même hein donc
je pense qu'il savait exactement ce qu'il voulait
même pas c'est vraiment au départ il est un peu particulier quand même donc voilà il y a un événement effectivement donc il y a un moment il a un accident un grave accident de voiture alors qu'il est jeune il passe à deux doigts de la mort mais vraiment à deux doigts de la mort et là il a compris une chose c'est que on va peut-être arrêter les bêtises et puis on va commencer à faire quelque chose de bien de sa vie Donc d'ailleurs il le dit quoi, donc d'accord. Il le dit carrément.
Ah oui, donc ça a changé sa vie.
Ça a changé sa vie. Son accident lui a fait prendre conscience. Et donc là franchement une bande dessinée quoi, un roman graphique.
Donc on a ce roman graphique Les Guerres de Lucas, ouais. On a des comics évidemment Star Wars.
Bien sûr.
Moi je voudrais rappeler quand même aux auditeurs que c'est Vivien qui fait une BD humoristique à partir de Star Wars, des personnages de Star Wars, c'est vraiment à mourir de rire. Ça s'appelle, il y a plusieurs tomes. Hein. Il y a La Guerre du Retour contre-attaque. Il y a le retour de la guerre du retour contre-attaque. Il y a le retour de, enfin bref, en fait vous verrez ça, c'est la revanche du retour de la guerre, du retour contre-attaque. Et en fait c'est une parodie de Star Wars et on retrouve les personnages et c'est très très drôle. Voilà.
Eh ben on prend bonne note.
Ouais.
Non mais vraiment de bonnes choses, de bonnes choses. Il y avait aussi une parodie en même temps, mais bon c'était un petit peu plus olé olé. Deuxième bande dessinée. Alors là, c'est pas vraiment une bande dessinée, comment dire. Si, c'est une bande dessinée, mais c'est pas mal aussi.
Mais pas vraiment.
Mais pas vraiment, c'est parce que là, on n'a pas mais d'histoire. C'est tout simplement Geostrategics.
Wow.
La géopolitique mondiale de 1945 à nos jours en bande dessinée.
Pas mal.
Pas mal. Et vraiment, c'est vraiment intéressant pour essayer de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit, hein, puisque bah, là justement, donc de Pascal Boniface et Tommy aux éditions Dunod Graphique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en quatrième de couverture ? À l'heure de la globalisation, peut-on comprendre le monde contemporain sans connaître la chaîne des événements qui l'ont façonné, la logique des rivalités, les affrontements des puissances ? L'essor du monde bipolaire, puis sa disparition, la décolonisation, l'enjeu de l'arme nucléaire, la globalisation de l'économie, l'émergence de nouvelles puissances, aucun de ces aspects n'est isolé. Ils interviennent au cours d'une grande histoire interconnectée et jouée par des acteurs hors normes, de Roosevelt à Trump, en passant par De Gaulle, Mao, Castro, Mandela et Poutine. Le géopolitologue Pascal Boniface, connu pour sa clarté pédagogique, décrypte les principaux rouages des grands événements historiques depuis 45 et leurs conséquences actuelles. Un récit passionnant, judicieusement mis en image par le dessinateur Tommy, qui a adjoint à une vaste galerie de portraits des cartes explicatives et un trait d'humour bienvenu. On apprend et on comprend en souriant. Ça fait un peu « tu mourras moins bête ».
Mais tu mourras quand même.
Mais tu mourras quand même.
Mais là, c'est la géopolitique. Alors, c'est bien pour les professeurs d'histoire à GGSP, pour ceux qui connaissent.
Mais même pour des élèves. Pour des élèves, parce que là, ça leur permet d'avoir finalement la géopolitique et puis quelque chose de sympa. Et
Pascal Boniface, il est quand même reconnu comme un bon géopolitologue. On le voit souvent à la télé.
Oui, non, mais là, c'est voilà. Bon, donc, c'est tout simple. Mais bon, ça permet de poser les choses, surtout en cette période où on a besoin de poser les choses un petit peu pour essayer de comprendre.
C'est vrai que ça fait penser à « tu mourras moins bête », ça fait aussi penser, tu sais, à la revue dessinée.
Tout à fait.
Topo.
Non, mais là, honnêtement, c'est bien fait. Bon, voilà.
De la vulgarisation.
C'est de la vulgarisation, mais de la bonne vulgarisation, comme on peut dire. Au moins, on est moins bête.
On est gâté. Hein.
On est gâté.
Merci Seb.
De rien.
J'ai quelques références, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Bah, pour les cadeaux de Noël. Hein. Ouais, on va écouter un peu de musique.
On va écouter un petit peu de musique.
Excuse-moi, c'est Killing Joke ?
Oui, c'est Killing Joke.
Et donc j'en parle juste après ?
Ouais, tu en parles juste après ?
Ok, ça marche.
Ok, ça marche. Donc tu nous as proposé donc Killing Joke, Love Like Blood.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point. Et c'est parti, et c'est maintenant. Moi j'espère. Ta-da-da-da.
We were small, nice, like soldiers in the field.
Killing Joke, c'est quoi? C'est qui?
Mais c'est qui donc?
Eh bien, Killing Joke, c'est un groupe anglais, un groupe britannique de Notting Hill, qui a démarré dans les années 70, alors fin des années 70, au moment du mouvement punk, en fait, 79 exactement. Alors on dit au départ que c'est plutôt un groupe de post-punk, hein, new wave, rock gothique. Le premier album, il est vraiment très très punk, hein, il est très très brut, voilà, du décoffrage, avec des titres comme Requiem, Wardens, vous voyez, c'est assez agressif. Et puis il y a quelques succès qui seront repris par la suite, hein. Par exemple, The Weight sera repris par Metallica, entre autres. Et puis, là, vous venez d'entendre un titre des années 80, parce que dans les années 80, le son du groupe évolue.
Oui.
Hein, on entend quelque chose de plus pop, en fait. Hein, de, voilà, vraiment très, dans le son, c'est vraiment typique, hein, des années 80, avec cette batterie qui résonne, le synthé. Voilà, la voix du chanteur est plus mélodique. Il y a des tubes, là aussi, donc Love Like Blood. Il y a 80s, qui sera très, 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 comment dire, pas repris par Nirvana, mais qui va inspirer Nirvana. 80s va inspirer Nirvana pour Come As You Are, par exemple.
Oui.
Voilà. Et puis, dans les années 90, le groupe va encore évoluer, va aller plus vers le métal, plutôt le métal industriel, voilà, influencé par des groupes comme Ministry, par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est pas un groupe qui surfe sur les modes, mais qui va
s'adapter,
exactement, et faire toujours de la bonne musique. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que ce soit punk, que ce soit pop, que ce soit métal, industriel, etc. C'est toujours excellent. Pourquoi? Parce que les musiciens sont excellents. Alors, je voulais en parler ce soir parce que Jordy Walker, le guitariste du groupe, vient de décéder. Il a fait un AVC, le pauvre, et donc il vient de nous quitter. Et je voulais en parler parce que c'est pas un groupe très connu, surtout en France. Et pourtant, c'est un groupe qui a influencé mais énormément de monde. Alors, je parlais de Nirvana, je parlais de Metallica, vous voyez, quand même des grands noms, quoi.
Oui, des noms importants, quoi.
Voilà, et donc il y a des sonorités un peu tribales, un peu musique classique. Enfin, il mélange un peu tout. Il y a eu pas mal d'anecdotes, parce que c'est pas Spinal Tap pour ceux qui connaissent, mais enfin il y a quand même pas mal d'histoires avec ce groupe, des membres qui s'en vont, qui reviennent, qui meurent, enfin c'est assez folklorique, rocambolesque comme disent les jeunes. Et donc voilà, donc c'est un groupe qui a des influences qui viennent de Led Zeppelin, Black Sabbath, Yes, King Crimson, et puis qui a influencé lui-même beaucoup de groupes. Il y a l'affaire Come As You Are, je reviens pas là-dessus, parce que c'est, si vous écoutez 80s, c'est vraiment, parce que Come As You Are, c'est 80s ralenti, en fait. Donc, voilà. Et puis c'est une discographie abondante, puisque depuis 79-80, le groupe a sorti énormément d'albums. Alors, quelques repères, quand même. Je conseille le premier, qui s'appelle Killing Joke, hein, c'est pas compliqué. Je conseille en 85 Nighttime, et puis en 94 Pandemonium, qui est vraiment excellent. En 2003 aussi, un album éponyme, encore Killing Joke 2003. Voilà, c'est pendant le vous donner un petit peu une idée du groupe, de l'humour aussi anglais de ce groupe. Pendant le confinement, ils ont sorti un morceau qui s'appelait I Am The Virus. Et petit clin d'œil aux Beatles, I Am The Walrus.
Exactement.
Et puis évidemment humour anglais pendant la pandémie, voilà, je suis le virus, nous sommes le virus, enfin voilà. Donc je voulais mettre un petit peu en avant ce très bon groupe Killing Joke, et surtout je dédicace, voilà, hein, ce morceau à Jean-Claude, puisqu'on est tous les deux des fans, et puis à Florence, je sais qu'elle aime bien aussi. Voilà.
D'accord. Super.
On les salue, et puis
on les salue, hommage, hein, et bel hommage aussi en même temps.
Tout à fait.
Écoute, c'est Killing Joke. La blague qui tue.
Alors, on va écouter encore un autre petit morceau de musique. C'est Romain qui nous a proposé ça. Donc, tu nous proposais.
Et qu'est-ce donc? Rosalie?
Non.
Ah, d'accord.
Guided by Voice.
Bah, ouais, c'est ça. Ouais,
guidé
c'est ça.
Par la voix?
Ouais, oui, guidé par la voix.
Ah, guidé par les voix.
Ouais, mais c'est pareil. C'est un groupe, je peux en dire,
mais comment on prononce ça?
Je crois que c'est Guided by Voice.
Ah, ouais, Guided by Voice.
Ouais, alors après, j'ai pas un anglais qui est excellent.
Mais je le trouve pas mal.
Ouais, écoute, merci. Mais en tout cas, c'est un groupe américain. Et groupe américain qui, alors tu parlais de groupe qui n'a pas arrêté d'évoluer. En tout cas, il est plutôt vieux, ce groupe-là, puisqu'il date des années, alors attends que je te dise pas de bêtises. Il a commencé en 83. Et c'est jusqu'à maintenant. Et si tu veux, il y a une série vraiment d'albums qui est longue comme le bras, et un bras très long. Hein. Et pour le coup, il y a eu séparation, puis de nouveaux groupes, et ainsi de suite. Et là, ils sortent un album, tout simplement. Et moi, ça me fait penser. Alors évidemment, c'est pas eux qui ont été influencés, mais c'est plutôt eux qui ont influencé d'autres groupes. Mais ce que vous allez entendre là me fait penser à un mélange entre Arcade Fire, pour ceux qui aiment bien Arcade Fire, et puis Interpol. Ça me fait penser un peu à un mélange de.
J'adore Interpol et Arcade Fire.
Bah alors tu vas me dire si t'aimes bien du coup ce titre, parce que voilà, ce groupe-là, c'est pas vraiment une découverte, hein, comme vous l'avez bien compris.
Ouais, mais c'est pas très connu en fait.
Mais c'est pas très connu, donc c'est pas mal.
Guided by Voices.
Ouais. Et le titre s'appelle The Race Is On, The King Is Dead.
Okay. Et maintenant, c'est sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point, et c'est tout de suite maintenant.
Ça c'est pour Romain.
Belle découverte.
Ça me fait plaisir parce que voilà, c'était bon, d'habitude on aime bien parfois faire des groupes qu'on connaît, des choses que voilà qu'on maîtrise un peu, et ou alors des nouveautés. Et là vraiment, on a vu un peu en off la liste des albums. C'est ils n'ont pas vraiment le sens de la mesure. Il y a une liste.
Ah c'est incroyable le nombre d'albums. Un album par an, voire plusieurs.
C'est ça. Et puis on avait vu aussi que lors de leur concert d'adieu une première fois, ils avaient fait un truc comme 60 et quelques titres. Ils savent pas vraiment s'arrêter.
T'en as pour ton argent.
Ouais, ah oui, on peut dire ça.
Et puis pour cette soirée aussi là en même temps.
On a vu plein d'influences, on a entendu. Enfin, on n'avait pas.
C'est pas
là.
J'ai tout
oh
ça.
Qu'est-ce
ouais, c'est clair. En tout cas, on a vu des Beatles, on a vu Weezer, on a vu Arcade Fire et on a vu Interpol. Donc voilà.
Voilà, entre autres.
C'est ça,
entre autres.
Et pas de Rosalie.
Ah, on y vient.
Moi, je vois pas le rapport.
Non, moi non plus. Là, donc,
on passe du coq à l'âne. On passerait pas du coq à l'âne.
On va passer du coq à l'âne. Et du coup, bah, j'ai envie de vous parler d'une série qui a vraiment été une petite révélation. J'ai trouvé ça chouette. Voilà. Bon, après, ça va pas changer ma vie, mais disons, en tout cas, plutôt qu'une révélation, un vrai coup de cœur. Parce que si, désolé pour la voix ce soir, j'embrasse tous les auditeurs.
Parce qu'il est guidé par les voix.
Exactement.
Ouais, il est guidé par les voix. De toute façon, c'est ça.
Alors, en fait, un de ces quatre, je vous ferai écouter quand même grâce à. À Seb, un petit l'intro. Ah voilà, je vous laisse écouter l'intro d'abord pour.
Paquita tiene una pena, Paquita quiere más.
C'est cool.
Con el mundo por montera maneja la ciudad. Ay, si Paquita supiera que maneja su suerte un prodigio, su mente y su forma de andar. Ay, Paquita. Señora niña bonita, pasión tesoro.
¿Has entendido eso en español?
Andando,
no,
yo estaba mucho más off. Fácil llegar. Y dice, ay, Paquita, consiga mucho una visita. Todos te quieren, todos te buscan.
¡Ole!
Paquita.
Ça sera pas un secret de dire que j'aime bien ce genre de rythme, ça me rappelle de bons souvenirs.
L'Espagne, ouais, l'Andalousie.
Ouais. Et puis un concert, une fameuse soirée super.
Flamenco.
Exactement, tout le monde, j'adore ça.
Almeria.
Ouais, et puis alors pour le coup, cette série, elle mêle en fait des choses qu'on adore. Parce que si je te dis The Office, évidemment, c'est une série qui nous a beaucoup plu. Je pense que, sans faire, vous avez vu 10% et vous avez aimé le genre
oui,
de série.
Oui, très bien.
Et ben voilà, cette série, c'est le parfait mélange entre The Office et puis 10%. Ça parle en gros d'une femme qui est une femme espagnole et qui est à la tête d'une agence qui s'occupe des acteurs en fait espagnols. Et finalement, elle a été vraiment très connue il y a quelques années. Mais aujourd'hui, face à une nouvelle vague d'acteurs et puis un monde qui évolue, elle est un peu, elle fait un petit peu kitsch, elle fait un peu has-been, elle fait plus sortie. Il y a un petit côté vraiment presque Almodovar, film, enfin un petit peu résurgence de Mobida, mais qui est plus vraiment d'actualité. Et on va la suivre finalement faire monter des actrices peu connues et les faire avoir finalement du succès. Et on va suivre les histoires et déboires de cette je sais pas comment on peut dire agente
ouais.
Voilà de talent espagnol, et c'est vraiment drôle, c'est touchant, parfois c'est un petit peu ouais, il y a des choses un peu faciles, mais en tout cas c'est ça mêle aussi, on voit des acteurs qui sont de vrais acteurs espagnols.
Ah oui, donc comme dans 10%.
Il y a exactement cette idée-là. Et en fait c'est une série que j'ai trouvé vraiment très drôle, c'est des épisodes très court. Mmh. Et puis voilà, si vous aimez l'Espagne, si vous aimez l'esprit un peu The Office avec ces actions qui se déroulent, puis après ces petits plans un petit peu comme ça où on commente ce qui vient d'être vu, ou alors voilà.
Est-ce qu'il y a l'équivalent de Michael Scott?
Bah c'est elle justement.
C'est elle. Ouais.
C'est elle. Et alors du coup, en plus, ce qui est une des particularités de la série, c'est que l'actrice, donc Paquita, c'était oui. Paquita Salas, en fait l'agence c'est PSCPS, parce que ça vient de Paquita Salas, qui sont ses initiales, et finalement elle est jouée par un homme, assez imposant, et donc c'est une femme, elle joue une femme forte, au sens propre comme au sens figuré, et surtout... qui est une sacrée énergie, mais qui est hyper humaine, quoi. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui vont l'épauler, il y a des beaux moments, il y a des gens qui sont ingrats, mais ce que c'est ça qui est dans cette série, c'est très espagnol. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté de série qu'on connaît, le principe de 10%, le principe de The Office qui est sur ça, et
Undo
vraiment
Stress.
Vraiment le côté un petit peu espagnol, un peu Bref, si vous aimez l'Espagne.
Il y a un moment qui s'amuse avec la technique.
Ouais, mais j'aime bien. Les petits coups de fouet, c'est toujours rigolo. Alors, du coup, si vous aimez l'Espagne, si vous aimez The Office et si vous aimez 10%, aucun doute, faites-vous plaisir. Regardez ces épisodes. Souvent, il y a vraiment des.
Mais où est-ce qu'on peut voir cette série?
Eh ben, c'est une bonne question. On peut la voir sur Netflix. Il y a 3 saisons, seulement, et des épisodes plutôt rapides. Donc vraiment, ça se mange
binge.
Sans fin. Ouais,
oh c'est... En français.
Ouais, c'est ça. Ça se regarde.
Ça se dévore.
On s'en délecte facilement.
Oh, merci. C'est très joli.
Moi, je vais vous proposer un petit morceau là qu'on avait écouté un petit peu cet été.
On l'a beaucoup écouté,
hein, apparemment.
Au printemps
aussi en même temps.
Ouais.
Je vais vous la laisser. Non, vous allez voir. Ah, on dit rien, on dira le titre après.
Non.
Donc voilà, ça c'est spécial dédicace pour toi, Romain.
Oh, ça me touche.
Ouais.
Ah.
Sácatela, sácatela,
novia una broma, ayúdame a sacarla de mi cabeza.
Sácatela.
Eh ben merci beaucoup pour la ref, parce que ça rappelle tout de suite les vacances.
Attends, tu vas voir, ça passe à la radio, là.
Stupéflip. Vite.
Attends, tu vas voir, ça passe à la radio, là.
Mais écoutez l'album Teatro Lucido.
Excellent album, vraiment.
Ouais, très, très
tout est bon.
Alors, les cadeaux de Noël, les gars, parce que c'est bientôt les fêtes. On a envie de se faire plaisir ou de faire plaisir à sa famille, à ses amis. Alors Seb, tu peux mettre une musique de fond, ça ne me dérange pas si tu baisses un peu.
Il n'y a pas de problème.
J'ai perdu, moi, j'ai perdu 10 dixièmes.
Excuse-moi.
Alors, dans vos librairies préférées, vous allez trouver des BD, vous allez trouver des romans, vous n'allez pas trouver des pastilles pour la gorge, il faut aller à la pharmacie Romain, mais il y a des trucs sympas quand même. Alors, vous ne voyez pas tout, chers auditeurs, chères auditrices. Alors, première proposition, si vous aimez Blanche-Neige,
on l'adore.
Si vous aimez les vampires, eh bien, si Blanche-Neige était un vampire, eh bien, ça s'appellerait Blanche-Neige Rouge Sang. Blanche-Neige Rouge Sang, c'est pas facile à dire.
Ouais.
Eh bien, c'est une chronique vampirique. Voilà, Blanche-Neige est un vampire, c'est un bijou noir aussi beau que cruel. Mmh. Alors, je vous montre la couverture, les gars, c'est magnifique.
Ah oui.
Très, 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 très belle couverture.
Ah oui, tout à fait. Premier beau dessin.
Et finalement, la petite musique va bien en plus.
Va très très bien, Seb. Tu es un champion du monde. Et cette émission est tellement bien préparée.
C'est ça. Et est-ce qu'il y a cette nain maléfique?
Ah bah ça, il faut aller voir.
Il faut aller lire. Il faut découvrir.
On va vous montrer le secret.
Alors, deuxième proposition pour Noël, un comics de Richard Corben. Ça s'appelle Den. Alors, c'est le premier travail de Corben qui est un hommage à Lovecraft. Si vous aimez, vous voyez tout ce qui est science-fiction, fantastique, avec des monstres. Lovecraft, Burrow et Howard. C'est une science fantasy musclée pour les amateurs de métal hurlant.
Ah, bien.
Pas mal.
Ah ouais.
Den de Richard Corben. Alors là, par contre, ça, c'est mon petit chouchou. C'est mon petit chouchou, c'est Grizzly Shark.
Ah.
Grizzly Shark. Alors, vous connaissez bien sûr tous ces films de requins qui attaquent les gens. Alors, bien sûr, je parle bien sûr de Jaws. Hein, mais je parle aussi de tous ces films complètement fous avec des requins qui attaque en
requin permanent. Tornade de requin.
Tornado. Voilà.
Ouais, c'est clair.
Sharknado.
Ouais, Sharknado.
Et alors là, ça s'appelle Grizzly Shark. Pourquoi? Parce qu'on est toujours face à des attaques de requins, mais dans la forêt.
C'est normal.
Alors, des requins, forêt, j'essaye de trouver
c'est le
lien.
C'est le fruit de l'amour entre un requin et un
grizzly.
Et il y a King Kong dans le secteur en plus.
Alors en fait c'est hyper drôle parce que bon bah voilà, les requins ils sont partout, ils attaquent tout le monde, mais là donc ils sont là où on ne les attend pas.
C'est clair.
C'est par le créateur de Invincible.
On est vraiment tranquille nulle part.
C'est exact.
On peut plus se balader en forêt. Hein.
Et alors ça pourrait être ça parce que sur la couverture du comic c'est exactement ça. Il y a le fils qui est sur les épaules de son père et qui regarde le requin qui arrive et puis il dit papa il est toujours là. Il nous suit partout.
C'est
voilà, Grizzly Shark. Et dernier BD, dernier comic, c'est The Blue Flame. Alors là, on est sur du classique du super-héros. C'est validé par First Print, le podcast de référence.
Oui.
The Blue Flame de Cantwell Gorham. Voilà, et c'est l'histoire de super-héros qu'on ne connaît pas, la flamme bleue, mais que je vous propose de découvrir. Donc voilà, ce sont quatre BD comics. Je rappelle les titres: Blanche-Neige, Rouge Sang, Den de Richard Corben, Grizzly Shark et The Blue Flame. Pas mal.
Bah, merci beaucoup pour ces
rêves. Pas mal tout ça.
Il y a aussi un roman, si ça vous tente.
Ah bah, tout nous tente.
C'est vrai? C'est un chef-d'œuvre fondateur du fantastique. C'est un roman assez court du 19e siècle. C'est vraiment le début du roman fantastique. Ça s'appelle Le Grand Dieu Pan. Le Grand Dieu Pan de Arthur Machen, je crois, Machen, je sais pas comment on le prononce.
Ouais.
Et voilà, ça c'est un roman fondateur du fantastique. On peut vous le proposer parce que c'est vraiment excellent. Voilà.
On va écouter un petit morceau de musique éventuellement.
Avec plaisir.
Bah, merci pour les rêves en tout cas.
Ah ouais, merci pour les rêves en tout cas.
Petit cadeau de Noël.
Petit cadeau de Noël. Bah, justement, on en a fait référence tout à l'heure dans notre émission.
Pas Maria Carré, j'espère.
Non, pas Maria Carré. Non, mais vous inquiétez pas. Je pense que ça va vous rappeler des choses aussi en même temps. On donnera le titre après. C'est tout de suite maintenant. C'est sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point. Et c'est maintenant.
Ah. Ouais. fait du bien. Ça débouche les cages à miel.
Exactement.
Comme dit Francis Zégut.
Ah, ça fait plaisir.
Quel album, quel titre.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Mais là, on est tombé ce soir que sur du bon.
Que sur du bon.
Hein. Eh bien, écoute, c'est bientôt la fin de l'émission.
Oui.
Mafia, c'est votre émission Info Culture, un mercredi sur deux, les semaines paires sur Radio G. On parle de cinéma, on parle de séries, on parle de musique, on parle de BD, tout ce qu'on aime. On est bien sur Radio G.
Eh oui, on est bien, mais malheureusement.
Un peu de musique peut-être. Bah, pour se quitter,
gentiment. Ah ouais. Alors j'ai pas de.
Bah nous c'est. Merci. Il y a The Smile qui a sorti un titre très calme.
Oui.
Pour finir l'émission, ça serait pas mal. Non. Alors un ancien titre de The Smile. On aime bien ce groupe.
The Smile. C'est quel morceau?
Je sais pas le titre.
The Wall of Ice.
Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Bravo.
Et ben voilà.
Il est trop fort. Heureusement qu'il est à la technique.
Ça s'appelle le talent.
C'est le talent. Talent radiophonique.
Et ben on y va, là, on va terminer ça tranquillement.
Et restez à l'écoute de Radio G. Et on se dit à dans 15 jours. Salut.
Salut.
On va soigner cette petite voix.
Mais oui.
Oui. Hein, on va prendre son petit cachet, puis ça va aller.
Des grogues, c'est important.
Un suppo et au lit. Salut.
Salut.
Strap yourself.